Radio Cité Genève.
Cité Culture. Épiphane Amonfaux.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de ce magazine Cité Culture. Je vous emmène aujourd'hui au musée d'art de Puyi qui célèbre son 75e anniversaire avec une exposition dédiée à la figuration narrative, un mouvement artistique souvent méconnu des années 60-70, intitulé donc Figuration narrative, un autre langage pop. Dans cette première partie d'émission, nous serons avec Yann Schubert, conservateur à la Fondation Gandur pour l'art et co-commissaire de cette exposition. Figuration narrative, un autre langage pop, c'est jusqu'au 15 décembre prochain. Et pour débuter ce parcours de cette exposition, nous sommes en compagnie de Yann Schubert, qui est conservateur à la Fondation Gandur pour l'art, qui est l'un d'ailleurs des co-commissaires. Bonjour Yann Schubert.
Bonjour, bienvenue à cette exposition, on est très heureux de vous accueillir.
Alors dites-nous, pourquoi figuration narrative, un autre langage pop? Que signifie ce titre donné à cette exposition?
Alors la figuration narrative, c'est en fait un courant d'art qui se développe au milieu des années 60. Et en fait, il est très proche des différents courants pop qu'on connaît, qu'ils soient britanniques, hein, le pop anglais est le premier pop qui naît au milieu des années 50 et qui va se développer ensuite aux États-Unis. Et parallèlement à ça, on a à Paris un mouvement, la figuration narrative, qui va se développer et qui va réunir des artistes qui viennent en fait de toute l'Europe. Donc c'est pas forcément un mouvement ou un courant qui est français, mais il est né à Paris et va réunir des artistes allemands, espagnols, italiens. Donc c'est ça aussi qui fait sa force, parce que c'est un mouvement international.
Qui sont les différents artistes que nous retrouvons à travers cette exposition ?
Alors, on a beaucoup d'artistes, on a 36 artistes qui sont là, de 12 nationalités différentes. On a Bernard Rancillac et Hervé Télémaque qui sont un petit peu à la base de cette figuration narrative, parce que c'est eux qui vont organiser, avec le critique d'art Gérald Gassiot-Talabo, la première exposition qui s'appelle Mythologie quotidienne en 1964 et qui va quelque part lancer le mouvement. Et à partir de ce moment-là, beaucoup d'artistes vont se reconnaître dans ce mouvement, parce qu'en fait, il va prendre le contre-pied de l'époque. On avait l'abstraction qui dominait vraiment la scène artistique, et cette jeune génération décide en fait de dire maintenant on arrête avec cette abstraction. On veut un retour de la figure, on veut un retour de l'histoire, on veut raconter des histoires, et c'est vraiment ce qu'ils vont faire à partir des années 60.
Quels sont les thèmes que nous retrouvons dans cette exposition ?
Alors, l'exposition a été articulée autour de 6 sections, donc il y a 2 étages au musée d'art de Puyi, et on a décidé dans un premier étage de montrer en fait l'influence de différents langages picturaux sur la figuration narrative. Donc on voit qu'ils vont être vraiment influencés par la bande dessinée, qui fait une des thématiques importantes, la photographie et le cinéma, qui est notre deuxième section, et par la publicité, parce qu'à ce moment-là, dans les années 60, il y a vraiment un développement sur les murs des villes, dans les magazines, de cette publicité. Et au deuxième étage, on a décidé de montrer en fait de quelle manière ces artistes vont aussi avoir un engagement et une critique de cette société qui voit le jour, avec la ville qui se transforme, avec l'image de la femme qu'on peint quelquefois encore avec des gros stéréotypes, et sur la contestation. Donc forcément, on a un langage qui va se développer et qui va devenir une critique sociale et politique.
Thème, artiste et maintenant médium, qu'est-ce que nous retrouvons à travers cette exposition ?
Alors, on a vraiment de la peinture qui est en majorité, mais on a aussi quelques œuvres assez intéressantes qui sont en d'autres matières comme du vinyle, du plexiglas, de l'altuglas, donc des nouveaux matériaux. Donc c'est vrai que c'est aussi dans cette génération-là une volonté de sortir de la peinture à l'huile, avec aussi l'arrivée de l'acrylique, et l'acrylique qui sèche beaucoup plus vite que l'huile va permettre à ces artistes de développer une autre peinture avec des aplats de couleurs par exemple, et on sera plus vraiment dans la matérialité de la peinture, mais on sera plutôt sur une critique sociale grâce à cette nouvelle manière de peindre.
Donc nous nous trouvons ici au premier niveau de cette exposition, donc comme vous l'aviez dit, en deux parties. Donc ce premier niveau, donc on va dire qu'il y a un parcours pour cette exposition, n'est-ce pas ?
Tout à fait, c'est vraiment, ça a été pensé comme un parcours, et donc on ouvre cette exposition avec une grande œuvre de l'artiste islandais qui s'appelle Eero. C'est un triptyque immense que l'on voit derrière nous. C'est vraiment ce moment où on voit que l'image apparaît dans la peinture. Donc là, c'est une accumulation de beaucoup d'images qui sont en fait des vignettes, si on veut, que Eero a récolté quand il est parti aux États-Unis. Il a été très impressionné par son voyage aux États-Unis où il voit cette déferlante d'images et il va les réutiliser. Donc on a les collages préparatoires qui sont sur un mur qui nous montre un petit peu ces vignettes qui ont été collées et après qui ont été transposées sur la toile, cette toile qui fait 2 mètres sur 3. Donc forcément c'est une vision très forte puisque on a sur ce tableau un cerf, un poisson, un pélican, un renard, des enfants, un Père Noël, des chiens, des papillons, des fleurs. Donc forcément, on prend dans la figure, pour le dire un peu vulgairement, ce tableau avec ces images qui nous sautent dessus. Et c'est un petit peu le but de ces artistes-là, c'est de montrer des images, montrer une superposition d'images et de voir comment nous, spectateurs, pouvons les appréhender, les comprendre, leur donner un sens, d'où ce terme de figuration narrative qui raconte une histoire.
Et à la droite donc de ce triptyque, 3 tableaux juste à poser l'un après l'autre, c'est bien cela ?
Tout à fait, c'est 3 petits collages préparatoires et en fait on voit que dans ces collages, qui donc arrivent un petit peu avant la peinture, on a déjà toute la force de cette peinture avec ces vignettes qui ont été collées et qui ont été récoltées aux États-Unis.
Donc, comme nous l'avons dit, Jan Schubert, donc cette première partie, c'est vous qui allez nous accompagner pour décrire, voir les œuvres et visiter ce premier étage donc de cette exposition. Et la seconde partie, ce sera donc l'œuvre de Victoria Mullig, qui est la conservatrice au musée d'art de Puyi. Comment ces œuvres ont été sélectionnées par la Fondation Gandur pour l'art ?
Alors, ces œuvres, elles ont été acquises par Monsieur Gandur, qui adore ce mouvement, qui est un mouvement assez récent, en fait, dans notre collection. Et actuellement, on a à peu près 400 œuvres. Sur les 400 œuvres, on a fait une sélection avec Victoria Mullig pour présenter un parcours qui soit cohérent et qui puisse raconter une histoire. Et sur ces 400 œuvres, on a retenu 85 œuvres qui nous permettent de dérouler, si on veut, cette exposition avec, bien entendu, des thématiques. Ici, on est dans une salle autour de la bande dessinée.
On va décrire ce que nous voyons, donner nos yeux à nos auditeurs et auditrices.
Alors, typiquement, les artistes de la figuration narrative vont être vraiment influencés par les comics, les bandes dessinées et les cartoons américains. Et donc, on peut retrouver Pluto ou Bugs Bunny, on peut retrouver Picsou ou Tarzan, on peut retrouver Hulk ou d'autres éléments de cette culture populaire. Hein. Donc, c'est aussi la première fois qu'on fait rentrer la culture de la rue dans l'art. Et ça, c'est très important pour les artistes de la figuration narrative d'être un art populaire. Alors, on a une œuvre qui est assez intéressante, c'est une œuvre d'Hervé Télémaque. C'est une œuvre qui est un diptyque, donc en deux parties. Ces deux parties ne sont pas fixées l'une à côté de l'autre, mais elles sont vraiment accrochées dans un angle. Et ça aussi, c'est une nouvelle manière d'approcher la peinture, c'est de ne plus avoir juste un tableau posé sur un mur, mais de jouer avec, on va dire, la physionomie de la salle. Et sur ce tableau, on voit un Marines américain qui est en train d'envahir un pays. Mais ce pays est un pays qu'on ne reconnaît pas forcément.
Imaginaire peut-être.
Alors, à moitié imaginaire, puisque en gros, on a des symboles qui nous font penser à la France, puisque Hervé Télémaque est arrivé en France après un passage aux États-Unis qu'il a quitté parce qu'il trouvait que le pays était trop raciste. Lui, venant d'Haïti, en fait, il dénonce l'impérialisme américain, puisqu'à ce moment-là, en 1965, les États-Unis viennent d'envahir Saint-Domingue, et forcément, lui qui vient de cette région-là est très touché. Donc, on a une œuvre politique, mais avec des symboles pop, où on retrouve un slip qui vole, un feu de signalisation, la date de 1789, du texte aussi, qui font penser à la bande dessinée, hein, ce rapport texte-image, qui nous qui permettent aux visiteurs de créer une histoire.
Sous fond de couleurs très rouges, il y a beaucoup de couleurs forcément dans cet art pop.
Alors oui, ça c'est vraiment une des grandes forces de ce mouvement, c'est ces aplats de couleurs. Alors chez Télémaque, on a du rouge très fort, très puissant, du bordeaux aussi, mais on peut se tourner vers Balder, qui est un autre artiste pop, où on voit juste un bras gauche. Le titre c'est « Le bras gauche de Tarzan », mais comme il est très vert, on dirait plutôt « Le bras gauche de Hulk », mais avec dans un décorum qui est un décorum très pop avec du bleu, du jaune, du blanc, donc on a et du rouge, donc on a vraiment une explosion de couleurs devant nous.
Et là le format ?
Alors le format, en effet, c'est un très grand format de nouveau, il fait plus de 2 mètres de haut, donc ça aussi, dans cet écrin du musée d'art de Puy, ça a aussi été une réflexion, puisqu'on est dans un très beau bâtiment qui est un bel espace, mais qui est peut-être un peu bas de plafond, donc on a dû jouer entre les grands formats et les petits formats pour pas étouffer les salles et donner quand même cette force de la couleur pop.
Nous sommes en compagnie de Yann Schubert, ici dans ce musée d'art de Puyi pour cette exposition jusqu'au 15 décembre. Et nous décrivons quelques-unes des œuvres que nous voyons. Nous poursuivons donc, Yann, notre visite.
Oui, alors là, on est dans cette deuxième section qui s'intéresse à la photographie et au cinéma, puisqu'en fait, les artistes de la figuration narrative ont été vraiment influencés par ces deux médiums. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est une série du peintre Gérard Fromanger qui a été centrale pour l'histoire de la figuration narrative. Et en fait, ce qui est intéressant, ce sont des scènes de rue. Donc, on en a 4 qui sont devant nous et elles font partie d'une série. Cette série, elle a été pensée par Gérard Fromanger à travers la photographie, puisqu'il a demandé à un photographe de presse de photographier le boulevard des Italiens, c'est le titre de la série, pour qu'il puisse ensuite les transposer sur toile. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait il utilise le médium de la photographie pour faire de la peinture, et ce qu'on voit sur ses œuvres, ben c'est des cinémas, donc c'est vraiment une des influences aussi, donc avec les films qui sont sortis à l'époque, on voit des affiches de cinéma, on voit un kiosque à journaux avec tous ces magazines, avec ces unes de magazines que ces artistes vont aussi beaucoup utiliser. Donc on a vraiment dans la peinture déjà cette référence à cette influence de la photographie et du cinéma.
Est-ce que ces trois œuvres peuvent être dissociées, ou alors on parle de triptyque ici, pas forcément?
Elles peuvent être dissociées parce qu'elles font partie d'une série, mais elles n'ont pas besoin d'être accrochées l'une à côté de l'autre forcément. Elles n'ont pas vocation à être tout le temps accrochées ensemble. Donc on aurait pu les séparer, sauf que là, comme elles décrivaient exactement ce qu'on voulait dire avec cette photographie, ces magazines et ce cinéma, forcément qu'on a voulu les placer côte à côte. Alors ici, on se trouve toujours dans cette section autour du cinéma, mais on a changé de salle et on est maintenant autour d'œuvres de Jacques Monory. Et Jacques Monory est aussi un artiste incontournable de la figuration narrative. Ce sont des œuvres qui sont très bleues parce qu'à partir du milieu des années 60, il va presque essentiellement peindre en bleu. Alors pourquoi il choisit la couleur bleue ? Parce qu'en fait, c'est un grand fan de cinéma. Et ça lui rappelle en fait un projectionniste ambulant de son enfance qui mettait un filtre bleu pour simuler la nuit, hein, la fameuse nuit américaine. Donc il va utiliser cette couleur bleue pour ses toiles, et on a des toiles qui sont très expressives, puisque dans 3 d'entre elles, on a des pistolets et des impacts de balles, puisque c'est une série qui s'appelle Meurtre, et c'est un petit peu le meurtre métaphorique, son propre meurtre à lui, puisqu'il vient de se faire quitter par sa femme, et donc il pense qu'elle l'a tué quelque part. Donc on le voit lui-même touché par des balles, on le voit avec un impact de balle, on voit une main féminine qui tient un pistolet, donc on peut penser que c'est probablement sa femme qui lui a tiré dessus avec un impact de balle sur un miroir qui permet de refléter le reste de la salle. Donc on a aussi un jeu avec les différentes techniques. Donc ça, c'est une des grandes forces de Monory, c'est de nous amener dans une narration, presque dans un film, hein, puisqu'il adorait le cinéma. Et donc c'est au spectateur, à la spectatrice, de se dire « Ah oui, ah, il s'est passé ceci avant » ou « Là, on en est à ce moment-là de l'histoire », et typiquement, il va beaucoup utiliser les techniques cinématographiques du hors-champ, du gros plan, de l'arrêt sur image. Donc ça, c'est vraiment des techniques qu'il va utiliser. Dans notre prochaine section, en fait, c'est une section qui est liée à la publicité, parce que la publicité va avoir une grosse influence sur les artistes de la figuration narrative qui vont vraiment l'utiliser comme un réservoir d'images, avec cette fois-ci déjà une pensée critique par rapport à la société de consommation qui est en train de naître. Donc on est bien sûr après-guerre, on est dans les 30 glorieuses, la situation économique est bonne, on est en pleine croissance économique et les biens de consommation sont partout. Donc Chrissa Romanos, qui est une artiste grecque, va utiliser les images de la publicité. Donc on voit une boîte de vaches qui rient, un paquet de Marlboro, une soupe Knorr, des boîtes de conserve, une télévision, des bouteilles d'alcool, etc., etc. Mais elle met au centre de son tableau une cible avec des enfants, pour montrer que voilà, cette génération-là va être la cible des publicitaires et que c'est à eux que va s'adresser ce nouveau mode de consommation. Et à l'époque, on voit qu'elle a totalement raison quand on voit où on en est maintenant.
Visionnaire.
Totalement visionnaire et totalement critique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que juste à côté de cette œuvre, on a deux autres œuvres d'une autre artiste femme, cette fois-ci catalane, Eulàlia Grau. Et Eulàlia Grau, elle va utiliser aussi les symboles de cette période en utilisant toujours des codes qui sont assez drôles, qui sont des codes de catalogue de vente. Donc sur la première œuvre, on a sur un fond de luminaire, on a en bas des footballeurs et en haut des reines de beauté, et elle démontre que tous les enfants, malheureusement, ça c'est son avis, rêvent pour les garçons d'être des footballeurs et pour les femmes des reines de beauté. Donc avec bien sûr des catégories qu'on appelle maintenant genderisées, et forcément que elle, qui est une féministe combattante, va essayer de démonter ces codes de la société patriarcale espagnole. Donc je rappelle, on est en Espagne pendant la période franquiste, donc forcément elle essaye de montrer que ce monde-là, c'est pas le monde qu'elle veut. Dans l'œuvre suivante, elle utilise cette fois-ci des publicités de l'époque, mais qui ressemblent furieusement à nos publicités actuelles, avec une publicité pour quelqu'un qui a peu de cheveux et qui en a beaucoup après. Donc on voit ce problème capillaire, ou un autre qui va acheter des talonnettes. C'est un homme qui achète des talonnettes pour être plus grand que sa femme, puisque l'homme doit dominer la femme. Donc forcément, dans cette perspective là le regard de Eulàlia Grau est un regard hyper critique, et on voit que le combat n'est pas encore gagné. Là, c'est encore sur la publicité, mais c'est vrai que le catalogue de vente est une des sources d'inspiration des artistes de la figuration narrative. Et on a Christian Babou qui représente des tondeuses. Alors c'est clair que peindre une tondeuse, ça peut paraître étrange, mais le titre dit quelque chose d'assez drôle, parce que le titre est « Enfin libre ». Comme si en achetant une tondeuse, on allait enfin être libre et montrer à ses voisins qu'on a un magnifique jardin. Donc il y a toujours ce rapport critique à la société de consommation et à la société en général. Donc on a cette publicité partout à l'époque, hein, elle est omniprésente, et les artistes vont vraiment utiliser ce moyen pour dénoncer aussi cette société de consommation naissante.
Merci en tout cas à vous, Yann Schubert, conservateur à la Fondation Gandur pour l'art et co-commissaire de cette exposition intitulée « Figuration narrative, un autre langage pop ». C'est jusqu'au 15 décembre prochain, donc au Musée d'art de Puyi. Merci pour nous avoir accompagnés dans cette première partie de cette exposition, ici donc dans ce musée. Nous allons retrouver dans une seconde partie donc d'émission, dans une seconde partie de reportage, la co-commissaire Victoria Mulig, donc conservatrice au Musée d'art de Puyi. Merci à toutes et à tous pour ces instants en notre compagnie. Belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM.
Merci à vous, et on se réjouit de vous accueillir par ici.